It's a simple sound, I'll show that it's real. Change it all the time, the way that I feel. Rolling down the hill, the air and the ground. Turned around.
Film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et maintenant, c'est l'heure de parler cinéma. Et c'est donc notre émission hebdomadaire habituelle. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale, vu qu'on va donc délibérer sur notre top 5, donc nos cinq premiers films préférés du premier semestre de l'année 2024. Et donc je vous ai dit on parce que je ne suis pas seule. Et donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi une jolie équipe. Eh bien bonsoir Gob.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous les cinéphiles d'Orléans et d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui on va vous disséquer en long et en large nos cinq films préférés de ce début, de cette première partie d'année 2024.
Bonsoir Claude.
Bonsoir à toutes et à tous, et nous allons effectivement vous faire profiter de notre choix.
Eh bien, bonsoir Arnaud.
Bonsoir à tous.
Oh là là, petite voix, j'augmente.
Oui,
ah, c'est mieux.
Est-ce que tu m'entends bien?
C'est mieux, j'ai l'impression que c'est mieux.
Bien, et eh bien alors donc bonsoir à tous et à toutes.
Et bonsoir Vincent.
Et salut Céline, oui, je suis contente d'être avec vous ce soir, effectivement.
Oui, parce que donc on est deux équipes, on se partage donc l'émission hebdomadaire sur le cinéma, et ce soir, alors je sais que Vincent et Arnaud, vous, en ce moment c'est un peu en stand-by, on recherche un technicien pour faire
la
technique de...
Ça nous aider, effectivement, un peu plus.
Parce qu'on... Pour faire vivre l'émission.
Bah, là,
ouais.
Et... C'est notre voix dans les micros, mais oui, donc mais là ça fait du, c'est bien parce qu'on avait des films justement qui sont plutôt pas mal à évoquer, et c'est l'occasion de l'émission spéciale de pouvoir se rencontrer enfin, et de pouvoir faire souvent ce qu'on faisait de temps en temps, c'est-à-dire de faire une émission collective, collégiale, des deux équipes.
Voilà. Oui, super.
Du reste, Vincent, il me semble me souvenir d'un souvenir de Top 10 où tu étais là.
Ah, sans doute, oui, bien sûr. voilà, ça m'arrive encore.
Oui, c'était.
Souvent, avant Noël, souvent,
oui,
plutôt la fin d'année.
Oui, oui. Ouais. Plutôt essaie, celui de fin d'année, oui.
Et comme l'environnement actuel est à la réunion et à la force.
Absolument.
C'était le moment
de
se réunir.
C'est vrai, c'était le moment.
Tout à fait.
Eh bien, commençons. Du coup, ce top 5, autant rentrer.
Dans le vif du sujet.
Dans le vif. Et
t'as pas d'agenda à nous.
Oui, est-ce que tu as quelques petites infos à nous donner?
L'agenda, eh bien, non, j'avais pas de. Après, je peux toujours rappeler qu'il y a. Je recherche du coup la date. Mais le concours organisé par le Cinéma des Carmes, les trampolines du cinéma.
C'est vendredi à 19h.
C'est vendredi, donc au Cinéma des Carmes. À
19h, c'est remise des prix,
la
c'est ça
remise des prix donc au court métrage qui ont été
surtout,
réalisés par des 15-25 ans.
La projection de tous les films qui ont été effectivement proposés et sélectionnés par les Carmes, avec en présence des réalisateurs qui, après chaque projection de leur film, viendront nous dire quelques mots sur leur intention, ce qu'ils ont voulu faire et le plaisir qu'ils ont eu à faire ces films.
D'accord.
Voilà, donc c'est l'occasion de voir la prochaine génération de cinéastes, peut-être, ou en tout cas une génération qui a envie de raconter des histoires, raconter leur point de vue par les images.
La plus jeune ou le plus jeune, je ne sais plus, à 16 ans.
Mmh. Oui, c'est ça, tout à fait, 16 ans. Bel âge.
Ouais, oui, un bel âge. Et on n'est pas sérieux quand on a 16 ans, finalement, et pas forcément 17.
Oui. Ok. Eh bien, voilà, juste pour l'agenda. On peut du coup passer...
Oui, ce sera pour l'année prochaine, mais il y a eu un festival à Ingré,
oui,
à la
salle
social,
tout à fait.
Boutrouche,
oui,
qui est le festival du film social. Moi, j'y suis allé. C'est un festival extrêmement
intéressant,
en présence de réalisateurs, en présence aussi. Beaucoup de réalisateurs se déplacent pour ce festival. Et il faudrait qu'on le signale mieux dans les prochaines éditions, de manière à ce que les gens se déplacent. Et il y a aussi eu un festival dont j'avais parlé, mais j'ai pas pu y aller, qui est le festival du film de demain à Vierzon, qui un festival qui commence à prendre de l'importance, où il y avait notamment un film dont on risque de parler, qui passe au Carmes à l'heure actuelle, qui s'appelle Dissidente, de Pierre-Philippe Chevigny, le Québécois, dont on a eu l'occasion de parler avec nos amis québécois, qui est un premier film qui passe au Carmes, et je vous encourage à aller voir ce film.
Et le festival est passé.
Oui, le festival est passé. Mm-hmm. C'est là 15 jours. Et c'était, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Lambert Wilson, qui était le président du jury.
Très bien. Donc voilà l'actualité festival dans le coin. Très bien. Enfin, de ce qui est passé. On peut commencer du coup le top 5. Attention, donc on peut commencer par toi, Gob, pour
si
ton numéro 5.
Voilà, alors mon numéro 5, c'est un film japonais qui s'appelle Le Mal n'existe pas, un film de Ryosuke Hamaguchi. Alors Ryosuke Hamaguchi, voilà, moi c'est un cinéaste dont je vois tous les films avec grand plaisir et grand intérêt depuis maintenant Senses, ce film fleuve sorti il y a quelques années. Il y a eu Asako, il y a eu le formidable Drive My Car, il y a eu Contes du hasard, et donc maintenant ce mal n'existe pas. Voilà, moi j'ai été vraiment étonné et transporté par moments par ce film. Il réussit à nous surprendre de film en film. On n'attendait pas forcément ce film-là après Contes du hasard. Et c'est une allégorie, c'est un conte onirique et écolo, c'est une fantasmagorie, c'est poétique en diable. Il y a des moments de mise en scène absolument incroyables. C'est quelqu'un qui sait suspendre le temps. Et puis c'est un film, moi j'aime ces films qui font confiance à l'intelligence du spectateur, et notamment il y a un final, on en a beaucoup parlé entre nous, on n'avait pas tous la même façon d'interpréter ce final, et voilà, c'est il fait confiance à l'intelligence du spectateur et à son goût, et il sème des éléments dans ce film qu'on doit nous ramasser petit à petit. Et en plus, effectivement, c'est un très grand réalisateur. Et il y a un regard, il y a quelque chose vraiment de super intéressant dans ce qu'il fait. Et moi, j'attends déjà avec impatience le prochain film d'Amaguchi.
Et notamment la musique qui est importante, qui a été composée par Ishibashi,
qui est magnifique.
Qui est la base de son projet.
Tout à fait.
Voilà, ouais. Qui n'était pas au départ un film qui devait sortir en salle. Ok, ton numéro 5, donc voilà. Le mal n'existe pas. Claude.
Alors, je ne ferai pas d'ex aequo.
C'est bien, Claude. Bravo.
Le top 10 de Claude.
Mais j'ai hésité, effectivement,
oui,
pour le 5.
On se doute, Claude, que tu as hésité.
Entre trois films, quand même, je vais vous citer.
Top 13, en fait.
J'ai hésité entre Chronique de Téhéran, Borderline et Dissidente.
Pour le numéro 5.
Pour le numéro 5.
Et qu'est-ce que tu as choisi, Claude?
Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas choisi Dissidente. Parce que je connais la véritable histoire de ce film et je ne tiens pas forcément à la révéler. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Donc, j'ai choisi Borderline, qui est un film, d'ailleurs, qui est le film qui a été récompensé à Angers, qui est le grand prix du jury d'Angers, qui, à Annonay, n'a reçu aucune voix, parce qu'on considérait que ce film était du théâtre filmé, et il y avait très peu de cinéma. Mais c'est un film de... C'est un film de montage, et c'est vraiment filmé au couteau. C'est une précision chirurgicale. C'est dans une atmosphère complètement anxiogène aux États-Unis. C'est quasiment à huis clos. Et pour un premier film, c'est extrêmement bien réussi. Je ne sais pas s'il a eu du succès lorsqu'il est passé au Cannes, parce que je crois même qu'il est encore à l'affiche, il me semble. Mais je récompense dans ce film la qualité du montage, la mise en scène qui est absolument, qui ne laisse absolument pas place à l'improvisation, qui est chirurgicale, et sur l'efficacité de ce film.
Et c'est réalisé donc par un duo, Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas.
Oui, qui doivent être deux. Peut-être espagnol.
C'est deux Catalans.
Deux Catalans, oui.
Ok.
Deux Catalans. Et l'histoire a existé. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce film a un côté, mais alors complètement anxiogène. Je veux dire, on est crispé sur son siège. C'est un huis clos. Il n'y a pas beaucoup de cinéma, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'image. C'est beaucoup de chant contre chant. Donc, c'est limité, j'allais dire, sur le plan cinématographique, mais efficace.
Très bien, très bien. Borderline, donc ton numéro 5. Arnaud.
Oui. Alors, en 5, Pauvre créature. Yorgos Lanthimos.
Oui, j'ai oublié ce métier.
Que dire sur ce film?
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Un démarrage complètement barré en noir et blanc avec un, comment dire, une proposition de départ qui est vraiment je veux dire, même Frankenstein, ça n'allait pas aussi loin. Enfin,
en termes de scénario, oui.
Ensuite, bon, un peu peut-être moins dans ce que j'ai préféré, mais la suite est donc une, tout simplement un voyage initiatique hein, du personnage principal, qui est à la particularité d'être quand même relativement en dehors de la morale. J'ai pas dit immoral, hein. Oui.
Mais complètement en dehors. Voilà. Ça, on est bien d'accord.
Complètement en dehors. Et donc voilà qui met un peu, enfin qui met en lumière certains abus et autres facéties
de notre société.
De notre société. Mm-hmm. Là où je mets un bémol, c'est que certaines thématiques sont quand même traitées un peu à la va-vite. Je vois la période parisienne. Je trouve que
L'Antimos, il est un peu foutraque par moment.
Ouais, mais complètement.
Ah, c'est assez foutraque, oui.
Mais bon, il a tellement de talent.
Mais j'avoue que moi, je connaissais pas trop son cinéma, et du coup, oui, j'ai été quand même assez époustouflé. Voilà.
Très bien, Pauvre créature, donc ton numéro 5, Arnaud. Vincent.
Alors moi j'ai mis un film d'horreur, les chats ne font pas des chiens ou l'inverse.
Cinéma de genre.
Ce sera le seul hein, de mon top 5 malgré tout. Il y a d'autres films horribles, mais le film d'horreur c'est La Malédiction, l'origine. Alors la tradition fait que les séries, les préquels, les séquelles, c'est souvent très mauvais. En général, moi je sors souvent extrêmement crispé, énervé d'aller les voir et je me dis pourquoi j'y vais encore. Là je suis allé voir ce film-là en pensant vraiment que ce serait l'autre fois de trop. Et en fait, bah non, bien nous en a pris parce que ce cinéma, enfin ce film, qui est en fait une préquelle du premier Malédiction, c'est un label, c'est une franchise, hein. C'est un film d'horreur qui date des années 70, sorti un peu après L'Exorciste, à l'époque où on faisait peur un peu avec le diable, etc. Là, ça se passe avant, ça se passe juste fin 70, ou début 70, donc c'est un film néo-rétro, c'est très tendance en ce moment, mais là, il faut avouer que c'est plutôt soigné. Ça reprend donc les thèmes, évidemment, du film initial, en arrivant à le mettre bien imbriqué avant, c'est ça qui est assez fort, et surtout avec une cinématographie extrêmement efficace. Moi, c'est là que j'ai été bluffé par le jeune réalisateur, enfin, dont je ne connaissais rien,
c'est une réalisatrice.
Arkasha Stevenson, et j'ai trouvé que le travail de l'image, du son surtout, était extrêmement ambitieux pour un film d'horreur, entre guillemets, de label, avec une production confortable, hein, c'est un major qui produit, alors que peu avant, une semaine avant, on était allé voir Immaculée, qui est un film autoproduit par la réalisatrice qui monte un petit peu, l'actrice qui monte un petit peu, qui joue dans la série, entre autres, voilà, enfin... Pour le coup,
ouais, je me permets de te couper un tout petit peu, Vincent. Ouais. Tu parles d'Immaculée. Oui, moi, je suis allé le voir avec beaucoup d'impatience.
Oui, puisque moi aussi.
Mon magazine préféré que je cite souvent ici, on avait dit le plus grand bien.
Ça a été une déception.
Voilà, et moi, Immaculée, j'ai vraiment trouvé ça très, très bien. Ouais. Et du coup, ça m'a absolument pas donné envie d'aller voir l'autre parce que je me suis dit, là, je viens de voir un film irlandais, un film d'horreur irlandais super réussi qui tourne autour d'une thématique finalement assez proche.
Exactement.
Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'aller voir une préquelle de studio de La Malédiction derrière ça? Tu vois, je me suis vraiment posé la question.
Il faut avouer que c'est très perturbant au tout début parce que tu te dis, mais j'ai déjà vu ça. Franchement, j'ai déjà vu ça la semaine d'avant.
Le scénario paraît être photocopié quand même sur pas mal
de... Qui a copié l'autre. Et en fait, alors on a deux. L'intérêt, c'est qu'on peut justement aller voir les deux. C'est une variation sur le même thème parce qu'il y a des thématiques qui se retrouvent bien évidemment avec entre autres quelque part l'enfantement et les choses comme ça ou l'avortement parce que le thème est un petit peu imbriqué toujours dans le fantastique en fait. Mais moi j'ai trouvé que celui-là se prenait quand même le lead entre guillemets la supériorité par vraiment la maîtrise du truc. C'est vraiment Immaculé, c'est un peu bancal. La fin était intéressante, cependant, le cri ultime, par exemple, était une séquence qui perturbait beaucoup, et l'actrice porte bien ça. Mais voilà, au final, celui-là m'a plutôt emballé. Je le choisis, parce qu'il a vraiment quelque chose de très fort, de très maîtrisé. Faut que je le revoie, parce que j'ai un peu ma déception, c'est de pas forcément la voir.
Bah, tu m'as persuadé d'essayer de le voir.
Non, ça me fait plaisir, parce que je l'avais mis en 6, mais comme c'est un top 5...
Ah oui. Bon.
Mais effectivement,
il
a une mise en scène et aussi une façon de l'ancrer dans l'histoire contemporaine, enfin celle de pas contemporaine des années 70.
Des années 70, voilà.
C'est-à-dire qu'on a les émeutes en Italie, etc. Et le film l'inclut dans
le scénario.
C'est pas simplement de la déco, c'est vraiment une. Tout est pris en charge.
Ça participe à l'ambiance du film. Enfin bon, voilà. Bref.
Voilà.
Et d'accord, et bien numéro 5, La Malédiction de Arkasha Stevenson. Voilà. Pardon. Eh bien, moi, mon numéro 5, c'est un film belge. Ça va te plaire, Claude. C'est Quitter la nuit, de la réalisatrice Delphine Gérard, qui est un film qui est pas facile, qui est une fiction, et qui est un premier long métrage pour cette réalisatrice, et qui est un film sur les violences sexuelles. Et donc et j'ai trouvé très intéressant sur comment elle peut filmer, en fait, elle filme vraiment brillamment, je trouve, l'impact psychologique de la victime et de l'agresseur, en fait, de voir comment après une agression sexuelle, quelles sont les répercussions et surtout les répercussions qu'on ne s'attend pas, où on a un peu un sorte de d'imaginaire de comportement de victime, et ici elle nous propose justement une victime qui n'est pas banale, qui est au contraire est plutôt avec ses spécificités, montre qu'il n'y a pas juste une façon d'être victime et qu'on peut être aussi touché par ces violences. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce travail. Et sans montrer en plus la scène de violence. Et c'est ça aussi que je trouve assez pertinent, où il n'est pas nécessaire de montrer, et autant suggérer, et je trouve toujours ça beaucoup plus intéressant en termes de cinéma. Voilà pour mon numéro 5, Quitter la nuit, de Delphine Gérard.
C'est un bien joli titre, en tout cas.
Oui, c'est vrai.
On aura l'occasion de reparler de ce film.
Très bien. Peut-être une pause musicale. Alors, du coup, j'ai essayé de sélectionner des musiques un peu qui ont marqué dernièrement nos salles obscures. Peut-être qu'on parlera de ces films aussi.
Peut-être, on va savoir.
Et donc, pour le... Donc, pardon, je n'étais pas prête. Mais pour le premier morceau, je vous propose d'écouter une bande originale d'un film qui a été pas mal récompensé en début d'année. Il s'agit de Oppenheimer, donc la bande originale qui a été créée par Ludwig Göransson. Grand compositeur notamment de Black Panther, Tenet, la série Mandalorian. Et donc je vous propose d'écouter une partie de la bande originale, et on se retrouve juste après, toujours sur Radio Campus Orléans. Et nous sommes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter un bout de la bande originale du film Oppenheimer, composé par Ludwig Göransson. Film qui a été beaucoup, beaucoup oscarisé. Et je me dis que non, il ne sera pas en fait, dans nos top 5 parce que... Ouh, pardon, j'ai coupé vos micros.
C'était l'année dernière.
2023. Effectivement, mais moi j'adore cette bande originale. Donc voilà, c'était l'occasion de la réécouter.
Oui.
Comme on l'a quand même pas mal écouté en 2024 hein, pour les Oscars. Voilà, bref, nous continuons donc. C'est une émission spéciale top 5 de nos meilleurs films depuis le début de l'année. Et donc nous sommes au numéro 4. Et Gob, je te laisse la parole.
Alors, le numéro 4, alors juste. Tout petit mot pour dire que pendant très longtemps, ça a été mon numéro 3. Mais un film que j'ai vu récemment est venu le débusquer de sa place. Donc il est redescendu d'une petite marche. Alors, c'est le film d'Alex Garland qui s'appelle Civil War. Voilà, on en avait beaucoup parlé, Céline, ici, et avec Claude aussi. Et je pense qu'on avait tous un certain enthousiasme vis-à-vis de ce film. Voilà, c'est comme une sacrée claque. Alex Garland, un putain de réalisateur, hein, et quel film, quelle intensité, quelle plongée dans une dystopie qui a des allures de réalité, on ne peut plus crédible.
C'est flippant.
Qu'est-ce que c'est flippant, qu'est-ce que c'est intense. Voilà, c'est un grand film. Il y a des scènes incroyables. On est pris à la gorge du début à la fin. L'interprétation est formidable. Kirsten Dunst est extraordinaire. Il y a ce passage qui tétaniserait n'importe qui avec où il tombe sur ces espèces de fascistes là. Ce passage est renversant. Et voilà. Et tout le film est sur ce ton-là.
Ouais, c'est terrifiant quand même.
Voilà. Moi, j'ai été complètement bluffé par ce film qui est un grand moment de cinéma et une sacrée claque. Voilà.
Oui, je n'ai rien changé à ce que tu viens de dire et je pense qu'on va en reparler.
C'est possible.
Donc oui, Civil War de Alex Garland, numéro 4 pour Gob. Claude ?
Eh bien, le numéro 4 pour moi est un film qu'on a vu ensemble avec Xavier, où il m'a emmené par la main et qui lui-même
c'est
a été
mignon.
Pris par la main par
c'est
mon
fils.
Sinon, j'aurais pas vu ce film. Mais c'est ce qu'on appelle le type même du film indépendant américain qui passe dans les universités avec une actrice rare qui est complètement lumineuse. Et le film, c'est The Sweet East, de cet américain qui fait surtout des séries aux États-Unis. Pourquoi ce film m'a interpellé ? Parce que j'ai compris pourquoi les États-Unis votaient Trump à la suite de ce film. Le film est très simple. Hein, c'est une jeune lycéenne qui fait un voyage avec son école et à un moment, elle s'échappe et elle va elle rencontre pas les États-Unis. Elle rencontre pas le peuple américain. Elle rencontre des communautés. Et elle passe dans trois communautés qui sont... Il y en a une, ça va, c'est des bobos, mais c'est des communautés très effrayantes, puisqu'elle passe dans une communauté de fascistes qui prépare un attentat, où un des responsables et financiers de l'affaire est un universitaire américain. L'autre...
Oui, un type brillant et séduisant, c'est ça qui est
brillant et séduisant,
tout l'intérêt du film.
Et pas du tout attiré par le sexe. C'est-à-dire pour ça qu'il s'intéresse aux armes et autres choses.
Beaucoup plus qu'à la Lolita qui s'offre
à
lui.
Il ferait mieux s'occuper de la Lolita et moins de ses revolvers et de ses mitraillettes. Et puis, il y a cette communauté d'islamistes qui sont des complotistes. Et en fait, on ne rencontre jamais le peuple américain. Alors, Xavier m'avait dit, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles. C'est ce qu'ils disent. Moi, je pense que c'est le voyage d'une candide, en fait. Parce qu'elle se tire d'affaires de tous les pièges dans lesquels elle se trouve. Mais c'est même, pour moi, ça a été une découverte des États-Unis que je ne connaissais pas. Et je comprends mieux pourquoi ils votent Trump maintenant. Et alors, surtout, je reviens sur cette actrice qui est lumineuse. Je veux dire, on est happé par son regard. C'est une jeune, je crois, qui a 20 ou 20
ans. Oui, une jeune actrice, c'est son premier film.
C'est son premier film, qui sort de l'université, qui a fait un petit peu de théâtre. Mais elle est Je veux dire qu'on est happé par son regard.
The Sweet Test.
Sweet ouais. East.
Ah, East. Non,
Sweet East.
D'accord. Il est passé de façon météoritique au Carme.
Ok. Ah,
oui.
Voilà.
Oui, un film réalisé par Sean Price Williams.
C'est
oui.
ça.
Donc c'est mon numéro 4.
Ok.
Très bien. Merci Claude.
Et ben, en numéro 4, on va faire assez rapidement, je pense, Civil War. Donc. Eh bien oui, comme tu l'as dit, le film est une belle claque aussi. Ça pourrait être en résonance, comme tu disais, oui. pourquoi voter Trump
oui, oui.
Là, on est.
Oui, c'est des films en résonance sur l'Amérique contemporaine, oui.
Comment déboulonner Trump, oui. s'il revient. Oui. Oui, alors, juste pour préciser que, bon, malgré le titre, le film n'a pas pour sujet réellement la guerre civile, ou une guerre civile. Aux États-Unis, mais on suit surtout des photographes reporters, et on voit la difficulté de leur boulot et de comment dire, enfin voilà, ça réhabilite un petit peu l'image qui est ternie depuis des années.
Complètement, oui.
Là, oui.
De leur travail. Oui.
De leur travail, sachant que voilà, eux, leur truc, c'est quand même la vérité.
Tout à fait. Ouais.
Les faits, etc. Donc voilà.
Évidemment, oui, effectivement.
Mise en scène magnifique.
Et ils sont là pour ramener effectivement des images de cette réalité, et même si c'est très cru, ou ça peut faire mal, ou on peut se dire mais pourquoi ils n'interviennent pas quand ils voient des actes, mais c'est parce que c'est voilà, leur métier, c'est de ramener des images pour témoigner,
effectivement, et
de montrer voilà la réalité qui se passe ailleurs. Donc c'est
oui, d'ailleurs, ce que tu soulignes, effectivement, c'est ce qui fait une des tensions. Enfin, c'est très dur, quoi, le fait d'être présent et de ne pas pouvoir, enfin, de ne pas intervenir, de rester en retrait comme ça. Bon. De rester en retrait et même de rester tout court, parce qu'il y a des trucs, excuse-moi, mais moi je m'en vais.
C'est pareil.
Oui.
Je reste pas là. Hein. Mais bon, voilà, donc ce film vaut vraiment la peine d'être vu.
Eh bien, merci Arnaud. Oui, Vincent.
Non, rien du tout. Non, mais c'est encore trop tôt. Faut attendre.
Il approuve. Vincent approuve.
Oui. Moi, mon top 4, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Moi, ce sera Pauvre Créature. On a déjà entendu parler par Monsieur Arnaud à côté de moi. Yorgos Lanthimos, dont je connais un peu plus le travail que toi. Mmh. J'avais vu, moi, Lobster. J'avais vu aussi un peu avant aussi le film avec.
La favorite.
Non, pas la favorite. Je l'ai vu à la télévision, mais j'ai vu celui avec Colin Farrell qui joue un chirurgien. Une sorte de famille très trouble avec aussi une maîtrise du cadre monumentale. Alors, c'était beaucoup plus rigide et beaucoup plus, on va dire, boulonné. Là, c'est. Foutraque, carrément, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Le film fait 2h30, c'est fusif, ça part dans tous les sens. La photographie noir et blanc au début est extrêmement, m'a fait tomber par terre. Hein. J'ai un peu documenté, il a tourné avec des optiques très anciennes. Bon, il n'y a pas de fake, il n'y a pas véritablement de trucs trafiqués informatiquement. C'est quand même filmé, hein, c'est de la pellicule. Donc il y a quelque chose d'extrêmement arty, certes, mais bon, il sait le faire, voilà, il a du métier. Il a une inventivité, une créativité qui est sans fin, on a l'impression que c'est sans fin. Après, c'est parfois un peu bancal au niveau de l'histoire, fatalement. C'est là que ça va choper. C'est sur la maîtrise du sujet et la maîtrise du récit. Parfois, ça va perdre de l'attention. 2h30 de ça, c'est impossible. Donc, au bout d'un moment, on fatigue obligatoirement. Et c'est ce qui m'a fait peut-être un petit peu, voilà, aussi me dire que bon, c'est génial, mais pas à ce point. Cependant, c'est quand même le côté extrêmement emballant qui l'emporte. C'est pour ça que je le mets dans mon classement. Il est allé plus loin encore un petit peu que ce qu'il faisait avant. Il sait pas ce qui lui est arrivé. Mais bon, voilà, il est productif parce qu'il continue encore de faire un film avec quasiment les mêmes acteurs. Il reprend William Dafoe, il reprend Emma Stone sur Cannes cette année. Donc, j'attends de voir ce qu'il va faire après. Mm-hmm. Mais cette étape-là, c'est un film qui ressemble à rien d'autre. C'est un objet cinématographique un peu fou. Et sur des thématiques, pour le coup, de la littérature, on va dire, du roman anglais gothique. Et là-dessus, c'est très bien respecté. Mais après, c'est pas non plus haut dans mon classement, parce qu'il y a ces effets un petit peu comme ça de saturation et d'exagération qui font parfois peiner la rétine aussi, quoi.
Oui, moi, effectivement, ce qui me dérangeait, c'était aussi sur l'aspect de l'émancipation par la sexualité.
Bien sûr, oui.
Ça m'a beaucoup dérangé. Et puis c'est vrai que cette histoire, c'est vrai que c'est un peu tordu aussi, voilà, ce qu'il a pu créer avec ce personnage féminin. Mais après, c'est vrai que l'univers qu'il a pu mettre en place est très intéressant. C'est vrai, effectivement.
C'est une expérience, en fait, avec des bons et des mauvais côtés, mais comme toute expérience cinématographique, on va dire.
Moi, je reviendrai sur le film plus tard.
Décidément. Oui, il y a des films qui vont effectivement revenir. Eh bien, moi, donc, c'est un film qui n'a pas encore été sorti, mais c'est le film de Todd Haynes, May, December. Donc, c'est son 9e long métrage, donc à ce réalisateur américain qui a notamment réalisé Carole ou Dark Waters. Ouais, j'avais adoré Carole. Je le mets pas au même niveau que Carole, malheureusement, j'ai un peu déçu, mais quand même, je le mets dans mon top 5 parce que j'aime beaucoup son cinéma, sa photographie qu'il a pu utiliser donc dans May December. Qui est proche des années 80 et que je trouvais vraiment très 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 beau, et sur cette histoire qui est basée sur une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis, donc sur une enseignante une enseignante de 34 ans qui est tombée enceinte d'un de ses élèves qui avait 12 ans. Voilà, c'est assez perturbant. Et ce couple assez qui est hors du commun.
Des enseignantes qui tombent amoureuses de leurs jeunes élèves.
Oui, mais alors là, comme.
Incroyable.
Oui, enfin, elle est mineure.
Oui.
Où elle est enceinte. Et en fait, et ils se sont mariés en plus. Bon, voilà, c'est très, très, très particulier. Et je trouvais ça intéressant qu'il aborde du coup cette histoire et de montrer aussi toute la manipulation, toute cette complexité des relations humaines et les actrices qui ont été choisies en Julianne Moore et Natalie Portman sont, je trouve, exceptionnelles. Elles jouent vraiment vraiment bien. Le garçon aussi, Charles Melton, aussi s'en sort vraiment bien, mais j'ai été vraiment bluffée par Julianne Moore et Natalie Portman, et surtout le solo de Natalie Portman à la fin. Il est bluffant. C'est aussi pour ses prestations d'actrice, je le rajoute dans mon top 5.
Céline, comme tu évoques le film, j'en profite. On le dit souvent ici, mais bon, c'est bien de le redire de temps en temps. Moi, ça fait partie bien évidemment des films que je voulais voir cette année. Et que je n'ai pas pu voir parce que, c'est toujours le même problème. Il y a 36 000 sorties toutes les semaines et j'ai jamais trouvé un moment pour aller voir ce film au Carme. Donc c'est bien de temps en temps de rappeler que c'est bien de sortir un maximum de choses. Mais des fois peut-être aussi que peut-être ça serait bien de sortir des fois peut-être un peu moins de films, de faire des fois des choix un peu plus et de mettre le cinéphile un peu plus en position de voir certains. Après, c'est un éternel débat, on en reparle souvent ici, mais voilà, j'en profite pour reglisser un petit mot à ce sujet-là.
On l'a vu avec Arnaud. Il sera en top 6 hein, ou pas loin, parce que vraiment, il était à la porte de mon top. On a adoré aussi certaines choses dans ce film-là, y compris toute la complexité de la situation lorsque l'âge avance. Enfin, moi, je trouve que génialissime, c'est la situation posée de mari et femme avec un ratio, un delta de 27 ou 30 ans presque d'âge, et on voit bien que le gars est immature clairement, c'est impossible, c'est une histoire d'amour quasi impossible, totalement fantasque en fait, mais qui est pourtant réalisé.
Ils veulent y croire.
Et c'est extrêmement très bien joué, hein, comme une trio d'actrices, binôme d'actrices, et le gars au milieu, le jeune gars, qui est extraordinaire. On a vraiment beaucoup apprécié le film aussi.
Non, effectivement, et Gob, c'est vrai que les choix, les exploitants, les salles de cinéma pour effectivement faire des choix, c'est pas si évident. Il y a des décisions qui sont prises, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de salles de cinéma avec des lignes éditoriales très fortes, et des fois on se retrouve avec des mêmes films dans différentes salles de cinéma, et peut-être que
je suis d'accord avec toi, c'est effectivement c'est des lignes éditoriales, et c'est sûr que quand tu as des multiplex avec qui totalise plus de 20 salles et que effectivement par choix éditoriaux effectivement 3 ou 4 films vont truster la moitié des salles et que par ailleurs dans la seule salle à réessai d'Orléans tu vas avoir une vingtaine de films qui essayent de trouver leur place et des séances sur 4 salles, effectivement on joue pas à égalité Et on joue pas à égalité et dans la quantité, dans la place disponible et dans la qualité. Donc effectivement, le débat aussi, je pense qu'il est complètement parasité par ça. Et ça, c'est la réalité économique du cinéma à laquelle on peut pas grand chose non plus.
Sinon, il y a une autre proposition, c'est de réduire les journées de travail pour avoir le temps d'aller au cinéma.
Exactement. Ah, mais oui.
C'est vrai.
Concernant l'écart, mais effectivement, il y a quelques films qu'on voulait voir, et moi qui, justement, du fait de mes horaires.
Trop complexe au niveau des horaires.
Et des horaires des films qui sont jamais les mêmes, et ben, il y en a quelques-uns que j'ai jamais vus.
Et puis les carmes sont soumis aussi au diktat des distributeurs. Hein. C'est pas simple, je te donne ce film-là, mais il faut que tu me prennes celui-ci et que tu le maintiennes au moins 15 jours. Enfin,
on ne sait pas tout, effectivement.
Non, c'est pas tout.
Mais
le cinéma, c'est complexe. Ouais. Hein.
Ceci dit, on peut aussi se faire les avocats du diable, hein, par moment, et reconnaître aussi, par exemple, tout à l'heure, Claude parlait de The Sweet East. Moi, par exemple, je reconnais que ce film, je ne m'attendais pas forcément à pouvoir le voir à Orléans. Et même si, effectivement, je crois qu'il n'y a eu que 4 séances en 15 jours au Carme, mais. Je me dis, elles ont eu le mérite d'exister. Elles ont eu le mérite d'exister, et elles ont eu le mérite de faire que au moins quelques spectateurs, ont vu ce film, ont été emballés, et on en parle aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Quoi.
Donc effectivement, la solution d'Arnaud me semble
tout à fait recevable.
Réduisons nos journées de travail.
Et d'ailleurs, j'ai recommandé ce film à une amie qui va très souvent à Paris voir ses enfants. Et elle avait l'officiel des spectacles. Il ne passe plus que dans 2 salles à Paris. Au Grand Action, rue des Écoles, l'ancien cinéma de Jean-Pierre Mocky, et puis une autre salle.
Oui,
donc pour Paris, 2 salles, c'est pas...
Oui, c'est pas beaucoup.
Et je pense, j'ai pas regardé le nombre de séances aussi. Hein.
Eh bien, on peut faire une pause, encore une nouvelle pause musicale.
Et après, on attaque le
trio.
Le tiercé gagnant. Oui. Le tiercé gagnant.
Tout à fait. Eh bien, là, je vous propose donc d'écouter une autre bande originale qui a marqué, en tout cas moi, ça m'a marqué. celle, eh bien, de Dune, de Denis Villeneuve, qui a été donc la musique a été composée par Hans Zimmer, que j'adore. Et donc, je vous fais écouter, réécouter. C'est l'occasion encore. Et donc, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans, et on se retrouve après cette pause musicale.